Alors, ben on va prendre un petit peu le temps de parler de cette belle revue que moi j'aime beaucoup particulièrement. Donc, La vie mancelle et sartoise, qui va fêter ses 60 ans l'année prochaine. Et vous me disiez qu'elle fête son 59e anniversaire aujourd'hui.
Oui,
Eh
effectivement,
oui.
puisque le premier numéro de La vie mancelle et sartoise, qui s'appelait à l'époque La vie mancelle,
Ouais.
est paru le 3 décembre 1959.
D'accord. Oui, ça commence à dater tout ça.
Tout à fait.
Ah oui, ça va faire 60 ans. Alors, La vie mancelle et sartoise, pour commencer, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est une revue culturelle qui est écrite et gérée par des bénévoles dans le cadre de la loi de 1901 sur les associations, puisque nous avons un terme technique, enfin un logo, l'ACTMR, l'Association culturelle et touristique du Mans et de sa région, plus connue sous le nom de La vie mancelle et sartoise, qui est beaucoup plus facile à prononcer.
D'accord, donc en fait la revue La vie mancelle et sartoise, c'est la revue de l'ACTMR.
Voilà, c'est
D'accord.
l'association qui gère le... qui gère tout le travail et qui est considéré comme l'éditeur.
Alors en 59, qui a fondé cette revue?
Alors en 1959, elle a été fondée, elle se voulait le reflet des manifestations culturelles dans la ville du Mans pour inciter les habitants à sortir et en même temps faire connaître le patrimoine manceau. Donc parmi les premiers numéros qui sont sortis d'ailleurs avaient un sous-titre, revue mensuelle du comité des fêtes et du syndicat d'initiative du Mans, ce qui veut tout dire.
D'accord, donc c'était pas forcément au départ orienté sur l'histoire, c'était plutôt une revue sur l'actualité culturelle de ce qui se passait au Mans, c'était ça.
Voilà, c'était pas sur l'histoire ou le patrimoine, non, effectivement, puisque ça a été créé au départ le premier bureau, si je puis dire, c'était le commandant Henri Pierret qui était président, et parmi les vice-présidents, on avait le docteur Maignan. On avait Jean-Martin l'imprimeur, on avait le chanoine Barré, on avait François Dornic, professeur d'histoire dont on parlera un petit peu plus tard, qui a été le
Oui,
premier président de l'Université du Maine.
ça c'est quelqu'un de connu, ça, François Dornic,
C'est
parmi
quelqu'un
ceux
de
que vous avez
connu.
cités, oui. Et qui est-ce qu'on
Et
trouvait d'autre?
eh ben, qui est-ce qu'on trouvait d'autre? Je voudrais revenir sur un cas qui nous touche particulièrement, puisqu'il y avait un certain Jacques Chaussumier,
Oui.
très connu une figure mancelle,
Et qui est toujours en vie d'ailleurs.
Ah ben Jacques Chaussumier, effectivement, c'est malgré qu'il soit un peu récalcitrant à l'informatique, c'est le disque dur de la maison. Parce qu'il a écrit dans le premier numéro.
Et 60 ans après, il est toujours là.
Et 60 ans après, l'autre jour, en comité de rédaction, ah tiens, j'ai pensé, là, je vous ai préparé une page, je suis en train d'écrire un truc là, sur les scieriers du Mans. Et à 93 ans, ben, il produit toujours.
Ah ouais. Comme quoi l'écriture, ça maintient aussi l'esprit
Ça doit
vif.
maintenir, effectivement.
Ouais. Alors, la périodicité de ce journal, est-ce qu'il a évolué aujourd'hui? C'est tous les combien de temps?
Alors,
Au début, c'était combien?
effectivement, on va faire un petit historique, si vous voulez,
Ouais.
de la vie mancelle, puisqu'on a vu qu'en 1959, en 1960, ça faisait 10 numéros par an,
Ouais.
sur 16 pages, qui valaient un nouveau franc à l'époque.
Donc ça faisait environ un par mois à peu près.
En gros, ensuite, il est passé à 24 pages. Donc en 65, 28 pages en 76, 32 pages en 82, et là on a eu la première couverture en couleur, parce qu'avant c'était du noir et blanc.
Ouais, on retrouve des numéros d'ailleurs pour celles et ceux qui
Oui.
voudraient parcourir cette revue depuis les origines. Il faut savoir qu'aux archives départementales de la Sarthe, il y a toute la collection de La vie mancelle et sartoise, et c'est très intéressant à revoir, à regarder, à lire.
Effectivement, et même pour les passionnés qui voudraient en avoir chez eux, disons, pour les consulter quand ils souhaitent, il y a possibilité de nous les commander directement en allant sur notre site internet La Vie Mancelle, vous tapez La Vie Mancelle et Sartoise, et là vous avez un bon de commande qui vous permet de commander des numéros. Alors, il y a une liste d'épuisés, bien
Et
entendu.
oui, je suppose que numéro 1, il est plus disponible.
Ah, du numéro 1 au numéro 29, hein, je crois qu'il n'y en a plus. J'en ai
Ouais.
encore quelques-uns.
Donc ça
Il y en
devient
a encore
collector tout
quelques-uns
ça.
au siège, mais ce sont vraiment des collecteurs.
Ouais.
Et donc, dans son évolution, très rapidement, en 1991, La vie mancelle est devenue La vie mancelle et sartoise.
Alors pourquoi ça justement, ce changement?
Eh
Pourquoi
bien,
cette
tout
ouverture sur la
simplement parce
Sarthe?
que ben, c'est pas qu'on avait fait le tour du Mans, mais c'est que le souhait de l'équipe de rédaction de l'époque était de dire on va élargir, parce que je dirais que le thème de sortir, les sorties culturelles et tout, il y avait d'autres moyens de programmation, il y avait d'autres moyens d'information, et c'est vraiment devenu une revue patrimoniale, et c'est pour ça qu'elle a été débaptisée de la vie mensuelle en la vie mensuelle et sartoise, et est devenue bimestrielle à cette époque-là.
D'accord, donc en 91, elle devient vraiment une revue historique, enfin, à caractère histoire locale.
Voilà, et puis, ben donc, 97, sont arrivés les premiers spécimens en couleur, et puis, ben donc, en 2001, le noir et blanc disparaît, on devient en bicolore, et puis 2003, on est en quadrichromie. Par exemple, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est 2000 exemplaires tirés, 700 abonnés.
Ah, c'est pas mal déjà, oui.
Ah oui, 48 pages.
48 pages en couleur, en papier glacé même.
Ah, en papier glacé sur la couverture et en papier couché de haut de gamme à l'intérieur. 5 parutions par an, février, avril, juin, septembre et décembre.
Est-ce que vous avez en tête quelques numéros qui ont eu une importance pour cette histoire de la vie mensuelle? Moi, je repense à un numéro spécial, par exemple, sur l'accident des 24 heures du Mans en 1955, mais je suppose qu'il y en a eu d'autres qui ont été faits, des numéros spéciaux sur des événements locaux.
Alors, il y a eu effectivement des numéros spéciaux, puisque à une époque, il y avait un numéro qu'on appelait toujours le numéro spécial, c'était celui du juin, et qui sortait à l'époque au moment des 24 heures.
Eh oui.
Et qui est devenu maintenant, si vous voulez, puisqu'on fait 5 numéros dans l'année, qui est devenu maintenant, au mois de juin, c'est un numéro classique, mais je dirais avec un double dossier central, puisqu'il y a toujours le dossier. 24 heures du Mans, puisque cette année, en 2019, l'an prochain, pour déflorer le sujet, ce sera la saga de Courage, le constructeur et pilote Manceau.
Alors c'est Yves Courage.
C'est Yves Courage.
Voilà.
Bon, il y a une petite page que j'écris sur son homonyme qui était un pilote anglais, Pierce Courage, qui faisait de la Formule 1 et qui est mort malheureusement à Zandvoort. Oh. Et puis, il y a toujours un autre dossier, puisqu'en fait, il dure tout l'été, celui-ci. En parlant le numéro spécial d'accident de 55, pardon, est-ce que c'est
vrai? Oui.
Jusqu'au bout. Effectivement, on en avait déjà vendu à peu près 2 ou 3 000 exemplaires. Et on a refait un retirage, là, qui est actuellement en vente, que vous ne trouvez pas dans les librairies, on ne l'a pas mis dans les circuits de diffusion.
On sur commande auprès de la revue,
voilà,
directement, ou de l'association.
Voilà, on vous l'envoie à domicile.
Oui.
Et donc, là, qui reprend l'accident de 1955, qu'on a enrichi, d'après les travaux de Michel Bonté, le journaliste, et d'un de ses collègues, et M. Moret, et qui nous a permis effectivement de sortir un petit peu du thème de l'accident pour le replacer dans la grande semaine des 24h55.
Ouais. Alors, est-ce que vous avez en tête un autre numéro? On parle des 24 heures, mais la Sarthe, ce ne sont pas que... Enfin, c'est bien connu, il y a le vieux dicton qui dit... le dicton pas si vieux que ça, qui nous dit qu'il faut plus de 24 heures pour faire le tour de la Sarthe. Est-ce qu'il y a d'autres numéros qui, à vos yeux, ont marqué l'histoire de cette revue?
Il y en a vraisemblablement des numéros, il y en a qui marquent toujours plus les uns que les autres. Notamment, je suis en train de penser à certains numéros qui marquent plus nos lecteurs. Par exemple, les quartiers du Mans.
Ouais.
Là, actuellement, il y en a un qui est en vente, c'est sur l'histoire du quartier de la Libération et du Paty Saint-Lazare. Et ceux-ci marquent beaucoup plus parce qu'ils sont dédiés au quartier du Mans. Il y en a un également qui a beaucoup marqué. Qui était celui dédié aux Alpes Mancelles.
Ouais, aussi,
qui
oui.
Qui est paru il y a un an et demi, 2 ans. Et voyez-vous, je pense qu'on ne cherche plus tellement les faits. Bon, l'accident de 55, c'est autre chose. Mais on ne cherche plus trop, si vous voulez, le fait marquant. On essaie d'aller cibler les différents points du département.
Oui, l'histoire de régionale, ce soit au Mans pour les quartiers ou dans des secteurs géographiques, les Alpes Mancelles. Peut-être vous avez fait des choses sur la forêt de Bercé aussi.
Alors, sur la forêt de Bercé...
Sur la vigne du côté du sud de la Sarthe aussi, j'imagine, les vignobles ont dû être faits aussi.
Les vignobles, effectivement. Dernièrement, c'est moi qui l'avais fait sur Jupille, les sabotiers de Jupille.
Oui.
Puisque, en fait, c'était une des capitales françaises et même européennes du sabot. Et donc, et également, bon, il y en aura d'autres qui suivront, parce que en faisant cet article-là, j'ai trouvé par exemple que dans le Nord-Sarthe, en forêt de Persaigne, on travaillait beaucoup le bois, mais c'était plutôt sur les ustensiles ménagers. Bon, bah donc ça fera l'objet d'un dossier complet. Comme à Vibray, on faisait des manches de parapluie.
Ah oui.
Ah oui, c'était spécifique.
Curieux, oui.
Donc voilà un petit peu la politique de la maison, enfin la ligne éditoriale de la maison.
Donc ça veut dire que n'importe quel lecteur sartois ou d'ailleurs qui a des attaches en Sarthe peut retrouver sur les numéros de la vie mensuelle peut-être un bout de l'histoire de l'endroit qu'il connaît ou dans lequel il a habité, par exemple.
Ah, tout à fait, parce que on fait l'histoire un petit peu, l'histoire locale de certains villages. Bon, je repense à Marigné-Layé. Et puis là, ben, j'ai des lecteurs qui m'ont reconnu dans l'écriture, qui m'ont appelé. On essaie de faire revivre un petit peu, ben, là, c'est le village de mon enfance.
Ouais.
Et chacun à notre tour, ben, on y va un petit peu sur ce qu'on a vécu et faire partager un petit peu ce qu'était la vie sartoise à cette époque-là.
Ouais. Est-ce que vous connaissez le public des lecteurs de La Vie Mensuelle ? Est-ce que vous avez une idée de qui vous lit et peut-être l'âge, l'intérêt ? Enfin, est-ce que vous avez des retours ?
Ah oui, effectivement, puisqu'on a travaillé, d'ailleurs, on a un grand retour, puisqu'on a travaillé sur un sondage que l'on a fait sur le numéro qui est paru au mois de juin. Et sur, on a un taux de retour qui est très voisin de 10%.
Ah oui, quand même, donc ça veut dire qu'il y a 10% des lecteurs qui vous écrivent ou qui vous appellent.
Il y a 10% des lecteurs qui nous... C'est-à-dire que là, non, ce qu'on avait fait, on avait mis un sondage qu'on avait encarté à l'intérieur, et puis avec une enveloppe T pour la réponse.
Donc 10% des lecteurs ont répondu à ce sondage.
Ah oui, sur 1040 à peu près qui ont été vendus hors abonnement, on a eu 104 retours.
D'accord. Et donc ce sondage portait peut-être sur quoi, sans tout raconter.
Alors le sondage, c'était savoir est-ce qu'on vous lisez-vous La Vie Mensuelle à chaque numéro. Eh bien oui, en fait, il y a 54% du lectorat qui le fait.
D'accord, donc plutôt des lecteurs assidus qui attendent.
Ah, ce sont des. Oui, tout à fait.
D'accord.
Bah, l'autre grosse autre partie, c'est des occasionnels qui, eux, bah, voient le titre.
Oui.
Hein, je ne sais pas, les Alpes Mancelles, ah bah c'est notre coin ça, tiens, je vais le prendre.
Eh oui.
Un petit peu, bon, bah, ça se fait comme ça. Et par contre, on a une tranche d'âge. Alors la tranche d'âge, c'est 50 ans et plus.
D'accord. Et pourquoi ça n'intéresserait pas les jeunes? Une question que je me pose. On est dans la radio est située dans une cité scolaire, donc est-ce que c'est une question de génération, l'histoire ou l'approche du papier, d'après vous
Alors, à mon avis, c'est plutôt l'approche du papier.
Ouais.
Je pense que ce doit plutôt être l'approche du papier. Et c'est peut-être aussi que nous, on a un effort à faire d'aller faire la démarche auprès, bah, peut-être, de proposer nos services. Je l'avais déjà fait une fois et ça n'y a pas eu de retour, dommage, avec une professeure d'histoire qui m'avait demandé, mais elle devait avoir l'accord de sa hiérarchie, si je pouvais intervenir pendant une heure ou deux pour leur expliquer comment on fait une revue, pourquoi on la faisait, ce qu'on est en train de faire actuellement.
Eh oui, c'est intéressant, oui, d'expliquer tout ça.
Moi, à la limite, pourquoi pas, effectivement. Et puis, bah, c'est-à-dire qu'on a un petit peu une désaffection sur la presse papier.
Oui.
Les dossiers de fond.
Oui, pas que sur la revue La Vie Mensuelle, ça touche tout le secteur de l'édition papier.
Ah oui, parce que nous, on regardait, si vous voulez, et on se situe, je dirais qu'on se situe dans le haut de la fourchette par rapport à la fidélité de notre lectorat.
Mais c'est vrai que...
bizarre que ça puisse paraître.
Mais c'est vrai que l'apparence du journal, enfin du magazine, c'est quand même quelque chose qui a une apparence de qualité. C'est pas un truc qu'on jette quand on l'a lu, quoi. C'est vraiment un petit peu une revue de référence, on pourrait dire.
Tout à fait, effectivement, parce que j'entends souvent des gens qui me disent, bah, dites donc, c'est drôlement bien votre truc, là, parce qu'au moins, on n'a pas envie de l'acheter, on les garde.
Eh oui, non, mais c'est fait pour ça, d'ailleurs, ce genre de revue.
Oui, et puis on a des gens qui disent, bah, écoutez, malheureusement, la grand-mère est décédée, elle a toute une collection de vies mensuelles, on ne sait pas quoi en faire.
Il ne faut pas la jeter, de toute façon.
Ah bah nous, là, on dit, bah, écoutez, on va la récupérer, parce qu'on va faire des heureux. Je sais qu'il y a un numéro, là, j'ai encore des demandes aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors, dès qu'il en rentre un, bah, on a la liste, et puis on lui téléphone, on dit, bah, écoutez, je vais peut-être pouvoir vous l'envoyer ce coup-ci, j'en ai récupéré. Hein.
Ouais. Bon, bah,
c'est le Mans à la belle époque, celui-là. Tiens, on parlait tout à l'heure, effectivement, de thèmes qui avaient marqué. C'est le numéro 384, disparu de la circulation, celui-ci.
D'accord, donc il a été tout vendu, il n'y en a plus disponible.
Ah, il a été plébiscité, non, j'en ai un sur le coin de mon bureau, c'est le dernier qui se promène. Là. C'est Le Mans, l'époque, c'est Le Mans aux années folles. Mm-hmm. Ah, oui, alors celui-ci, effectivement, on parle de la naissance des comptoirs modernes, on parle de toutes ces choses-là, ça parle au Sartois.
Ça parle au Sartois, hein. Oui, les comptoirs modernes, forcément, et oui.
Les comptoirs, comme quand vous voyez les comptoirs, quand vous parlez des comptoirs modernes...
Il y a MMA aussi, peut-être, les mutuelles du Mans.
Il y a les mutuelles du Mans, le Grand Prix d'endurance des 24 heures en 1923, enfin bref, vous avez toutes ces choses-là, la conserverie Herpin, parce que je suis en train de regarder en même temps que je vous parle, et tout ce qui s'est passé, si vous voulez, les Dames de France, les grands magasins, enfin bref, ça parle aux gens, même aux gens qui n'habitent pas le Mans.
Ouais. Alors la question que je me pose, ou que les gens peuvent se poser, est-ce que ce sont des historiens, entre guillemets, professionnels, qui écrivent dans cette revue ?
Eh bien, écoutez, non, ce ne sont pas des historiens professionnels, parce que j'écris régulièrement dans la revue, et j'étais cadre bancaire, donc effectivement, non, nous sommes des rédacteurs passionnés par la Sarthe, et on veut faire partager cette passion, on veut faire vraiment partager cette passion, et quand on parle d'histoire, moi je dis histoire avec un grand H, et je dis même patrimoine, patrimoine à tous les niveaux, que ce soit, parce que souvent patrimoine, on dit c'est de la pierre. Non, parce qu'il y a le patrimoine
bâti,
patrimoine bâti, il y a le patrimoine culturel. Par exemple, le patois.
Oui, par exemple. Oui.
Le patois fait partie du patrimoine de la Sarthe.
Alors même si par écrit, c'est pas toujours évident d'en parler, mais bon, ça c'est autre chose.
Ah, c'est relativement difficile. Je pense qu'on va s'y attaquer, parce que j'ai vu Serge Bertin dernièrement. Et il tourne avec un spectacle là qu'il fait avec les Chemineux.
Ouais.
Et il parle de la ferme de Chia ou de Courjumel que vous connaissez peut-être.
Oui, je connais bien, oui.
Une ferme extraordinaire.
Et oui, comme il y en a très peu dans le coin d'ailleurs, mais on en trouve encore des fermes de Chia. Mais...
Oui, mais celle-là, elle était vraiment faramineuse.
Et ça, oui.
Si vous voulez, c'est pas pour faire un dictionnaire, mais essayez de remettre au goût du jour quelques expressions, parce que ça disparaît vraiment, et c'est un petit peu gênant.
Ouais. Alors, on a bien compris que ce ne sont pas des historiens professionnels, mais plutôt des gens passionnés d'histoire, quoique l'un n'exclut pas l'autre de toute façon. Et donc, ce sont forcément aussi des gens que l'on peut croiser aux archives départementales, j'imagine, puisque les sources, pour écrire, il faut avoir de la matière, donc ça ne tombe pas du ciel. Donc, j'imagine que vous déplacez soit sur le terrain, soit aux archives pour trouver vos documents que vous mettez en forme dans la vie mensuelle. C'est un petit peu le principe.
Ah bah oui, vous nous retrouvez un petit peu partout, aux archives départementales, ou alors à la
généalogie aussi.
À la médiathèque. Je dirais qu'on a un gros avantage maintenant, nous qui faisons de la recherche. Je dis pour nous historiens, parce que je ne me considère pas comme historien, on a vraiment la chance, c'est d'avoir Internet.
Eh oui. On trouve énormément de choses.
C'est pas une certaine époque. Alors, il faut faire le tri.
Ah oui.
Ah oui, oui, oui. Là, je pense qu'il faut vraiment faire le tri, parce que là, c'est quelque chose qui est relativement dangereux à utiliser tel que, mais on trouve des sources formidables.
Pour terminer cette première partie de cette émission sur la vie mensuelle, est-ce que vous pouvez me donner quelques grands rédacteurs qui ont... marquer l'histoire de cette revue depuis bientôt 60 ans.
Ah oui, par exemple, un des premiers qui était François Dornic, qui était le premier président de l'université du Maine, qui était un historien remarquable. André et Philippe Bouton.
Oui, donc qui ont écrit aussi des monuments sur l'histoire de la Sarthe, parce que les livres d'André Bouton, c'est quand même quelque chose.
Ah, c'est un point de référence, et d'ailleurs, dans l'équipe, on a Didier Béoutis qui, effectivement, est le petit-fils, un petit-fils Bouton. On a également des grandes plumes, parce que Gérard de Cortance, par exemple, qui a été prix Renaudot en 2002 pour Assam, nous avait écrit un article sur la saga de sa famille, la famille de Cortance, puisqu'ils n'ont pas toujours été dans les littératures. On faisait beaucoup dans le sport automobile dans cette famille-là, et d'ailleurs, l'ancêtre de Cortance a couru les 24 heures. On a également Sylvie Granger. qui est docteur en histoire, qui est ancienne maître de conférence
à l'université du Maine.
Du Maine, ouais. Et puis je voudrais rendre un hommage, mais ça c'est un peu personnel. On est quelques-uns anciens du lycée Montesquieu. Quelqu'un pas trop connu, Fernand Le Tessier, qui était un de nos professeurs pédagogues, disons qu'il faisait de la pédagogie avec beaucoup d'humour.
D'accord.
Et qui a marqué des générations de lycéens. Et Fernand Le Tessier, qui était là, lui, au numéro 1.
D'accord. Ah oui.
Ah oui, donc effectivement, qui est décédé maintenant dans les années, au début des années 2000. Mais si vous voulez, voilà un petit peu les gens que l'on a pu avoir. Bon, on a Serge Bertin, qui est connu pour ses travaux d'anthropologie, et qui est connu également pour... c'est lui qui a traduit... qui est en train de traduire Hergé en sartois.
Ah oui, Hergé en sartois, ça c'est original.
Ah oui, oui, il y a les emmanchés de à tournesol. C'est assez hard à lire. Hein.
Oui, mais bon, ça peut être marrant, oui, pourquoi pas.
Ah, ça c'est très marrant, c'est en BD, mais c'est super. Hein. Okay. Ça, je peux vous dire que c'est pas mal.
Et ça sortira quand? Parce que bon, faut que
j'y pose la question. Ah, c'est sorti. C'est Serge Bertin, oui, c'est sorti.
D'accord, bon, bah, ça sera l'occasion de...
Oui, il y en a un autre qui va sortir l'an prochain, mais là, celui-là, il était sorti... je pense qu'on peut encore le trouver dans le commerce, mais ça s'est arraché.
Ah ben j'imagine, ouais. Je vous propose de faire une première pause musicale, parce qu'on a parlé assez longtemps. On va se retrouver après ce titre de Marc Robin, qui s'appelle « Quand je vois passer un bateau » dans Quartier Libre, sur Fréquence I. À tout de suite.
À tout de suite.
Quand je vois passer un bateau, j'ai envie de me foutre à l'eau et d'enjamber le bastingage et vivre entre le ciel et l'eau le reste de mon âge. J'ai envie d'aller où il va, remonter le long de Java, descendre à terre le soir au mouillage et rire comme un étranger d'un rire qui fait éclater la rose bleue d'un tatouage. J'ai envie d'aller loin d'ici, brûler ma vie dans ces pays où les cargos éventrent les collines, aller de Manille à Cuba, changer le coton en tabac et le tabac en cocaïne. Plonger le poing rongé de sel dans le corsage d'arc-en-ciel d'une chinoise ou bien d'une manouche et prendre ses seins tout petits comme des œufs au fond d'un nid pour les écraser sur la bouche. Tailler le couteau bien en main, une balafre à mon destin et enlacer ces filles malhonnêtes qui par un mouvement des reins allument le sang des marins au fond des clans des deux tempêtes. Défilant le long du bateau, regardez les champs de pavots semés de filles à la démarche étrange, le pan de la jupe fendue balamble sur des jambes nues juteuses comme des oranges. Quand je vois passer un bateau, j'ai envie de me foutre à l'eau et d'enjamber le bastingage et vivre entre le ciel et l'eau le reste de mon âme. Chinoise ou bien d'une manouche et prendre ses seins tout petits comme des œufs au fond d'un nid pour les écraser sur la bouche. Défilant le long du bateau, regardez les champs de pavots semés de filles à la démarche étrange, le pan de la jupe fendue balamble sur des jambes nues juteuses comme des oranges. Je vois passer un bateau, j'ai envie de me foutre. à l'eau et d'enjamber le bastingage et vivre entre le ciel et l'eau le reste de mon âge.
Marc Robin dans Quartier Libre. Avec ses très belles chansons, quand je vois passer un bateau, on retrouve notre invité du jour, Jean-Pierre Guyard, toujours là ?
Ah, toujours là, Fidel Lopez.
Voilà, donc vice-président de l'association de la vie mancelle et sartoise, d'ailleurs qui ne s'appelle pas l'association vie mancelle, puisque la vie mancelle, c'est la revue de l'ACTMR, c'est bien ça ?
Voilà, c'est bien cela.
J'ai bien retenu la leçon. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu du fonctionnement. Aujourd'hui, combien de personnes contribuent, je ne dis pas travail, parce que c'est, je ne pense pas que vous preniez ça comme un travail, mais contribuent à la vie mancelle et sartoise ?
Mais vous avez entièrement raison lorsque vous parlez de travail, parce que malheureusement, nous avons tous passé l'âge du travail.
Oui, c'est...
Et à 65 ans, j'ai quand même l'honneur insigne d'être un des plus jeunes de la maison. Donc,
ouais.
Nous sommes 20 rédacteurs permanents.
20 rédacteurs.
C'est-à-dire que qui viennent d'horizons fort différents.
Ouais, alors, est-ce que c'est, on peut se poser la question, est-ce que c'est que des profs, par exemple ?
Ah non, pas du tout. La preuve, je vous disais tout à l'heure que moi, j'étais cadre bancaire. Mmh. Il y a effectivement, que je pense, un certain nombre de professeurs comme Jean-Pierre Delaperelle, André Ligné, mais Roger Crétois, mais lui qui d'un autre côté était professeur des écoles. Mmh. Et puis il y a énormément de monde, Alain Ménil qui était chef d'entreprise, Francis Landier qui travaillait à la Chambre de commerce et d'industrie, Pierre Gallienne, qui est peintre et musicien à 16 heures.
Ah oui.
Si vous voulez, c'est vraiment très... Il y a Claude Goisdieu qui, lui, était commercial dans la librairie. Enfin, voyez-vous,
oui, vraiment,
très, très disparate.
Très disparate. Est-ce qu'il y a des femmes aujourd'hui dans cette association, dans cette vie mancelle et sartoise ? On parle beaucoup d'hommes.
Alors,
depuis le début.
Ah oui, bien sûr, nous avons encore deux dames.
Oui.
Et puis, dans les plumes, je dirais, dans les permanents, hein, Chantal Mariotti, qui écrit et qui s'occupe également de généalogie. Et nous avons Ginette Meunier, qui est également dans la généalogie et qui participe à nos travaux de façon régulière.
D'accord. Alors, concrètement, lorsqu'on décide d'écrire une revue... À ce rythme de 5 revues par an, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça.
Ouais. Comment est-ce qu'on choisit les sujets, les thèmes, qui décide, qui propose ? Comment ça se passe ?
Ben, disons qu'on part de notre ligne édito.
Ouais.
Hein, la ligne éditoriale, ben, c'est pas vous, je vais expliquer ce que c'est. Est la Sarthe en général.
La Sarthe, mais c'est vaste la Sarthe.
Oui, ben justement, mais qui touche au patrimoine, c'est ce que l'on disait.
Ouais.
Le bâti, l'histoire locale. Le patrimoine industriel, puisque effectivement, on parle de temps d'entreprises qui existent encore ou qui ont existé dans la Sarthe, le patrimoine culturel, les personnages.
Les personnages aussi, parce qu'on en a,
oui.
on n'a pas très beaucoup parlé des personnages, mais la Sarthe, comme dans d'autres départements, regorge de personnes qui ont marqué l'histoire de France plus ou moins récemment d'ailleurs.
Ah, tout à fait, hein, puisque, tenez, dans le numéro qui est actuellement, non, c'est dans le numéro précédent, il y avait un article sur les attaches d'Alfred de Musset,
ouais.
Amour et désamour d'Alfred de Musset dans la Sarthe.
Et oui.
Et qui a passé une partie de sa jeunesse, il passait ses vacances dans le château du côté des Vaillés. Et bah donc voilà un petit peu tous les... Là actuellement il y a un sujet sur Léon Blois. Léon Blois qui est un littérateur en Sarthe, moins un écrivain peut-être moins connu, hein, effectivement, parce qu'il ne hante ni les programmes scolaires, ni le patrimoine littéraire des grands écrivains. Mais par contre, c'est quelqu'un qui... Aujourd'hui des ouvrages confidentiels, mais qui à une certaine époque était un petit peu le... l'agitateur public.
Ouais. Alors moi, je reviens à ma question sur les sujets, les thèmes. Par exemple, je suppose qu'à chaque numéro, il y a un article ou une série d'articles sur un thème phare qu'on va retrouver en photo ou illustré sur la couverture. Comment c'est décidé, ça ?
Alors, tout à fait. Par exemple, celui que j'ai sous les yeux, qui est actuellement en vente, si vous voulez, qui est Quartier et Libération Saint-Lazare. Mmh. La première de couverture, vous avez une photo.
Oui.
Qui est
de ce quartier.
Le matin de la foire aux oignons. Mmh. Donc, effectivement, là, on avait décidé que le thème principal serait Quartier et Libération Saint-Lazare.
Et donc, j'imagine qu'il n'y a pas qu'un seul rédacteur pour écrire sur ce sujet.
Ben, disons que là, on a été deux. Mmh. Personne, mais souvent il y a un seul rédacteur pour faire 8-9 pages.
Ah oui.
Ah oui, parce que là on l'a fait à deux, puisque Jean-Pierre de la Perelle, et qu'il l'a écrit avec moi, lui avait travaillé sur les rues du Mans, l'origine des noms. Mm-hmm. Et puis moi je me suis plus attaché à l'usine des tabacs et à faire ressortir la maladrerie, enfin l'ancien hôpital Saint-Lazare et la foire aux oignons. Mais non, je vois que certains articles, j'avais écrit sur les mines de Juigné à une époque, l'industrie du charbon dans la Sarthe.
Oui.
Un peu passé de mode et perdu de vue. Non, mais il y en avait quoi, j'avais fait 8 pages là-dessus, les sabots de Jupille. C'est pas. Non, généralement, c'est un travail de longue haleine.
Oui, parce que j'imagine que le sujet du numéro, du prochain numéro, est déjà décidé presque un an à l'avance.
Ah oui, par exemple, le prochain numéro, le 459, ce sera la famille Chappé au Mans.
La quoi ? Excusez-moi, j'ai pas...
La famille Chappé.
La famille Chappé.
Les fondeurs.
Oui, donc je suppose que c'est pas, ça s'écrit pas en 3 mois, quoi.
Oh non, ça fait un an à peu près que le sujet a été abordé.
Oui.
Le numéro 460 qui suivra, ce sera l'école professionnelle Funet. Mmh. Beaucoup de Sartois connaissent, puisque effectivement, et l'école professionnelle Funès, ça fait plus d'un an qu'il est prévu.
Oui.
Le 461, ce sera effectivement Yves Courage aux 24 heures du Mans. C'est pareil, ça fait un an qu'il est prévu.
Hein. Alors si ça fait un an, c'est bien, parce qu'il y a tout un travail de recherche et d'écriture.
Ah oui.
En amont, parce qu'on pense qu'écrire c'est facile, mais lorsqu'il faut écrire 9 pages dans une revue d'histoire comme La Vie Mancelle, c'est tout un travail quand même.
Et pour... j'étais parti du principe, bon, j'avais fait des études littéraires, j'avais une plume un peu facile, mmh. Mais quand vous écrivez et que vous passez aux séances de relecture,
eh oui.
Effectivement,
oui, il faut relire tout ça, oui.
Eh ben vous progressez, puis eh ben vous vous dites, oui, effectivement, j'ai encore quelques points à améliorer. On a toujours des points à améliorer. À ce titre-là, je vois pour 2020, ce sera Porsche et Le Mans. Mm-hmm. Ça s'appellera un mariage d'amour plutôt qu'un mariage de raison, parce que ça fait très longtemps que ça dure. Bah, par exemple, là, ça fait aux 24 heures, j'ai pris contact avec le président du club Porsche au Mans pour commencer à préparer
le numéro de 2020.
Le sujet.
Ouais,
ah
ouais.
Oui. Ah oui, là, c'est un travail, effectivement, de longue haleine.
Ouais. Et donc, vous parlez de relecture, j'imagine que toutes les pages des numéros qui sortent sont lues, relues. Il y a combien de personnes qui participent à ce comité de relecture ?
En général, il y a 5 ou 6 personnes. Mm-hmm. Hein, si vous voulez, on repart avec chaque article.
Ouais.
Donc qui est retravaillé, enfin relu surtout, effectivement, tiens, là il y a une virgule en trop, bon je dirais que ça c'est le côté anodin. Bon là effectivement, tiens, il y a tel truc que moi je ne l'aurais peut-être pas dit de la même façon, j'aurais peut-être allégé un petit peu, et c'est effectivement tout un travail. Donc après, là, ça part à la maquette, donc chez notre imprimeur. Qui est ITF, pour pas le citer.
Oui, donc ça, c'est la Mulsanne, ça.
C'est la Mulsanne. Et donc là, si vous voulez, après, donc ils nous font la maquette.
Oui.
Et on reçoit le projet.
D'accord.
Et puis, là, si vous voulez, là, il y a un gros travail. C'est un travail énorme, parce que là, on cherche à la virgule près toutes les petites coquilles qu'il peut y avoir, qui se promènent. Les illustrations qui sont décalées, parce que malheureusement, quelquefois, ça peut arriver.
Oui.
Et puis dire, ah ouais, on a trop chargé en illustration.
Donc il faut enlever, il faut modifier la maquette en fait, à chaque fois.
Ouais, sur Libération, j'ai dit, non, mais qu'est-ce que j'ai été mettre cette illustration-là ? Mm-hmm. Non, ça me choquait de l'avoir à cet endroit. Puis, tout compte fait, j'ai dit, on va même pas. J'ai demandé, enlevez-la moi, parce que franchement, je vois pas. Elle venait comme un cheveu sur la soupe. Mm-hmm. Hein, parce que quand on a pratiquement le numéro tel que le lecteur va l'avoir sous les yeux, là bah, si vous voulez, effectivement, on le fait encore évoluer.
On le fait encore évoluer.
Ah oui, ça, c'est... Alors, 5 ou 6 personnes, c'est un gros travail.
Alors, on parlait de noms de personnes qui ont écrit dans cette revue ou qui écrivent toujours. La question qu'on peut se poser, est-ce que une personne qui aurait une idée de sujet ou un article peut proposer des articles à la vie mensuelle, et comment ça se passe concrètement pour proposer un article sur un sujet qui nous tient à cœur?
Eh bien, écoutez, il n'y a absolument pas de problème, parce que effectivement, l'âge et le temps fait son œuvre dans nos troupes, et on est toujours à la recherche de nouvelles plumes. Mmh. Parce que bon, on a 20 plumes permanentes et à peu près autant de plumes occasionnelles.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est des gens qui de temps en temps disent, bah tiens, on a trouvé un sujet là, on aurait ça à vous proposer. Mmh. Je prends un exemple très concret sur Sille et Guillaume. Si quelqu'un dit, bah écoutez, je sais pas moi, il y a eu une histoire étrange où il y a eu quelque chose la forêt de Sille.
Oui.
Moi j'ai toute la documentation, j'ai l'iconographie. Les illustrations, parce que vous avez pu constater que c'était quand même quelque chose de bien illustré.
Mmh. Ah oui.
Et donc là, on tient vraiment à ce qu'il y ait.
Les photos sont vraiment recherchées, c'est pas des trucs qu'on voit partout.
Hein. Ah bah non, effectivement, ça, il y a un gros travail de recherche.
Ah oui.
Et quelqu'un qui a ça, donc il n'y a pas de problème. Mmh. Il nous le propose. Jacques-Henri Minier, qui est notre nouveau rédacteur en chef, prend contact avec chaque candidat auteur, je dirais,
ouais.
Candidat entre guillemets, et puis discute de son sujet en le faisant peut-être évoluer un tout petit peu, parce que on part quelquefois d'une idée, et puis même lorsqu'on l'a écrit, mm-hmm. on en parle et disant, tiens, j'ai fait ça, mais je me demande si j'aurais pas dû...
Oui, faire autrement, oui.
Ah, c'est toujours un petit peu ténu, ce genre de choses, mais si vous voulez... vous avez une référence, des références téléphoniques donc de la maison, en disant ben moi je m'appelle Monsieur Intel, et puis voilà mes références téléphoniques ou mon adresse mail, et puis j'aurai un projet. Est-ce que le rédacteur en chef, est-ce que quelqu'un peut me rappeler qu'on en discute ensemble?
Ouais. Et éventuellement les rédacteurs, je veux dire permanents, peuvent aussi aider ou accompagner la personne qui se lancerait dans l'écriture d'un article, par exemple?
Tout à fait, oui, tout à fait. Hein. Quelqu'un, moi je ne sais pas si j'ai un ami qui me dit un jour, bah tiens, j'ai un truc là, qui je pourrais faire une page ou deux sur tel truc. Moi, je vais lui donner déjà la charte graphique et puis un petit peu toutes les indications, je dirais, en dehors du style. Parce que ça, le style, c'est propre à chaque
oui.
Personne qui écrit. C'est la personnalité des gens. Et par contre... Lorsqu'on a dit ben ok, on y va sur tel sujet, on fait les modifications qu'on peut être amené à faire en relecture se feront toujours sur la forme et jamais sur le fond. Ça c'est sacré, on ne touche pas au fond
de l'article,
des choses. Non, et puis bon, on rencontre des gens, on a des gens qui sont en train de travailler là, qui ont des projets, qui nous les ont présentés. Ben, notamment on s'était rencontré à la 25e heure.
Ben, c'est l'occasion,
et,
oui.
Et il y a quelqu'un qui me dit, écoutez, moi j'aurai un projet sur à côté de Loué, sur Mareille en Champagne.
Oui.
Hein, il y a des buis qui ont à peu près 500 ans, qui sont taillés en triangle, j'ai trouvé une explication et tout. Ce monsieur, ça va être mûr, il est en train de travailler. Mmh. Et puis un de ces quatre, il va dire, ben voilà le texte que je vous propose.
D'accord.
Et donc là, tout rédacteur est bienvenu.
D'accord. Alors, on approche de cette fin de cette interview. On va parler du numéro actuel. Qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le numéro qui est en vente dans les librairies, les maisons de la presse?
Eh bien, on va trouver un numéro où le thème central était le quartier Libération Saint-Lazare. Mmh. Par exemple, il y a, rapidement sur le sommaire, les bandes dessinées des quotidiens sartois d'après-guerre.
Ouais.
Et là, on parle de Popeye.
Ah oui.
On parle de Popeye, dans le Maine, je crois, d'Oscar, de Larry Flett qui était dans West France. Alors là, bah oui, on revient quelques années en arrière. Hein.
Donc des dessinateurs sartois aussi qui sont intervenus dans la presse, c'est un petit peu l'idée?
Non, si vous voulez, c'est principalement les plus connus. Hein, qui
d'accord.
Ont été, ça nous arrive effectivement parce que Baringou travaille avec nous.
Mm-hmm.
Et donc, effectivement, c'est un illustrateur connu. Mais là, ça c'était surtout les... ce qu'on appelait les comics à l'époque.
Oui.
dans les quotidiens d'après-guerre.
Oui.
Alors, ensuite, il y a un article.
Oui,
oui, allez-y.
Oui, autre article, allez-y.
Autre article, Victor Roussel. Alors, Victor Roussel, qui était un notaire, victime de son clerc au coup d'État de 1851.
Ah oui.
Donc, oui. Donc, ça se passait à Torigné-sur-Douai, pour vous dire qu'on se promène un petit peu dans le département de la Sarthe. Parce qu'après, on va passer sur les chapiteaux de l'église du Pré.
Les chapiteaux de l'église du Pré, oui.
Oui, par exemple, c'est un sous-titre, l'art roman dans toute sa plénitude, où on nous décrit effectivement les chapiteaux. Ensuite, on aura une demi-page sur un rhododendron centenaire dans le cimetière de Montfort-le-Génois qui a été planté en 1918 lorsque deux familles ont réussi à rapatrier le corps de leur enfant mort au champ d'honneur. Et en 1918, ils ont planté un rhododendron.
Et qui est toujours...
Là, il est en photo. Et, il est vraiment magnifique. Après, on s'en va voir Léon Blois en Sarthe, qui était cet écrivain un peu turbulent que je vous disais, qui a vécu à Mamers. L'épopée du Yéclin à Pont-Valin.
Oui, alors ça, c'est un peu plus connu déjà, cette histoire, l'épopée du Yéclin.
Oui, tout à fait. Donc là, ça a été vu et réinterprété, mais en essayant de faire un petit peu la quadrature du cercle sur le point de départ de la chevauchée du Yéclin.
Oui.
Il est loin d'être évident.
Oui, puis ça remonte un petit peu déjà, cette histoire.
Ah oui.
C'est pas tout à fait récent, du Yéclin.
Non, non. On parle de l'hôtel Doyy, qui n'existe plus maintenant, mais qui est l'esplanade du bicentenaire sur la muraille du Vieux-Mont.
Oui.
Hein, et puis, en continuant à feuilleter, on parle de l'histoire des chocolats Bélanger. Bon, cette période avant Noël...
C'est propice à ça, de toute façon, oui.
Petite anecdote là sur les Morlettes. Les Morlettes, les Melons, une commune libre qui ne se prend pas au sérieux, c'est un hameau de la commune de Savigny-l'Évêque.
Ah oui. Commune libre qui s'appelle les...
Ah non, cette époque-là, c'est un lieu dit qui D'accord. s'appelle les Morlettes, un gros hameau. Et puis, si vous voulez, à force de faire des fêtes après les batteries et tout, on se déguisait et ainsi de suite. Et puis ça s'est terminé que tout ce qui poussait bien là-bas, c'était le melon, parce que la terre était pas terrible.
Ah oui.
Donc les Morlettes, les Melons, une commune libre. Et puis tous les ans, au mois d'août, il y avait des grandes festivités.
Et on mangeait du melon.
Et on mangeait du melon, des Morlettes. D'ailleurs, je vois une affiche de balle avec Mick Lama.
Oui.
Ça ne vous dit rien.
Non.
Moi, je me souviens, étant gamin, je voyais ça. Les affiches de balles, Mick Lama, ça doit parler à certains lecteurs et certains auditeurs, parce que ça date des années 50-60.
Oui.
Il y a un article également sur Gérard Lallier, qui est un photographe nature.
Oui, donc vraiment toute une grande variété d'articles. Comme vous disiez, c'est pas forcément que du patrimoine bâti, c'est aussi des paysages, des personnages, du dessin aussi, puisqu'il est question de bande dessinée.
Oui, l'année 1904 au Mont par Jean-Pierre Hupinel, dans l'objectif d'un photographe. Bah, si vous voulez, effectivement, c'est tout ce qui s'est passé en 1904 au Mont. Il y a 5 pages avec des photos d'époque qui sont vraiment magnifiques. Voilà un petit peu pour vous donner la diversité de ce que l'on fait.
Voilà. Alors, pour terminer cette émission, donc on a indiqué au début de cette émission que la vie Mancelle allait bientôt fêter ses 60 ans. Aujourd'hui, c'est son 59e anniversaire aujourd'hui.
Oui.
Donc l'année prochaine, dans un an exactement, ce sera les 60 ans. Est-ce qu'il y a des choses de prévues pour l'année prochaine?
Ah oui, il y a un numéro spécial qui sortira au mois de fin novembre, début décembre, comme cette année. D'ailleurs, au même prix, à 6,50€ le numéro. Mais au lieu de faire 48 pages, il en fera 80.
D'accord. Et donc l'idée, c'est de reprendre des articles depuis les origines, c'est ça?
Du tout.
Ah.
Non, on est en train de tous réécrire, et 80 pages, il faut les meubler. On est en train de réécrire, c'est Quoi de neuf en Sarthe, ça s'appellera Quoi de neuf en Sarthe ou les années neuf. C'est-à-dire qu'en 1199, par exemple, il y a eu le traité d'Auvers-le-Hamon qui a été signé entre Jean Santerre et son cousin Arthur de Bretagne.
D'accord, donc toutes les années se terminant par 9, l'idée c'est de trouver un événement ou un personnage qui a marqué une année qui se termine par 9.
Il y en a un autre qui me vient en tête, là, parce qu'il nous a été proposé il n'y a pas très longtemps, par un passionné d'automobile, 1979, c'était le dernier départ en épi des 24 heures.
Eh oui.
où Jackie X, pour bouder, était parti en marchant, lui, il avait refusé de courir vers sa voiture. Il était parti bon dernier, il a quand même gagné cette année-là. Donc voilà.
Donc ce sera à retrouver ça dans un an.
Dans un an.
Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Peut-être un contact pour
oui,
que les auditeurs puissent se joindre à votre association, votre revue, tout simplement peut-être pour vous poser des questions ou pour s'abonner ou pour contribuer dans des articles.
Tout à fait, effectivement, parce que on a notre activité effectivement là et on a sorti un premier livre aux éditions Sutton qui s'appelle Le Mans en noir et blanc.
Oui.
Et en fait, c'est 200, c'est pas des cartes postales, hein, ce sont 200 photos inédites du Mans de 1879 à 1979.
Oui.
Donc, a déjà été vendu à pas loin de 2000 exemplaires. Et donc, pour les fêtes de fin d'année, il est en vente dans toutes les bonnes librairies.
D'accord. Donc, les photos du Mans originales,
1879. Autrement, il y a possibilité, effectivement, pour Noël aussi, de s'offrir ou d'offrir un abonnement.
Eh oui.
Ça coûte 29 euros pour une année, on le reçoit à domicile. Et ce que je dis toujours, quand on me dit « il manque des numéros », je dis « écoutez, c'est pas grave, c'est fini maintenant, il ne va plus vous en manquer, j'ai une solution à vous proposer ».
Voilà, l'abonnement, c'est souvent d'ailleurs le plus simple.
L'abonnement, voilà. Et puis un autre dernier point, si vous voulez, c'est qu'en projet actuellement, il sortira normalement pour la 25e heure de l'an prochain.
Mm-hmm.
Donc si on se rencontre là, vous verrez. C'est un livre sur le travail d'un prêtre naturaliste, l'abbé Cottereau, Élie Cottereau.
Mm-hmm. Ça dit quelque chose ce nom-là, oui, allez-y.
Oui, Élie Cottereau qui a pris sa retraite à Conflans-sur-Anis, son village natal.
Mm-hmm. Oui.
Parce qu'il n'était pas chargé, lui, d'une paroisse. Vous savez, à cette époque-là, ils étaient plutôt précepteurs dans les grandes familles et ainsi de suite. Et il a fait des herbiers, mais alors magnifiques, parce qu'il était passionné de naturalisme. Et il a travaillé sur les champignons, mais comme les champignons, ça ne se conserve pas dans les herbiers.
Eh oui.
Il en a fait des aquarelles.
D'accord.
Et on va en publier à peu près 150.
D'accord.
Avec la biographie et on espère une préface d'Alain Baraton.
Mmh.
On attend sa réponse.
Alors, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir participé à cette émission pour nous présenter en long, en large, en travers la vie mancelle et sartoise. On voit que c'est une revue tout à fait intéressante sur l'histoire, mais avec un très varié. Et puis aussi la possibilité au lecteur, même s'il le souhaite, de pouvoir aussi contribuer à participer, à enrichir la connaissance du patrimoine en Sarthe.
Ah oui, parce qu'en allant sur notre site, vous verrez... Effectivement, il y a un truc contact.
Alors, je mettrai moi toutes les informations, de toute façon, le lien vers le site internet.
Voilà.
Et puis, les gens pourront retrouver donc les adresses mail des contacts pour la vie mancelle. Et puis aussi, je suppose, le lien vers la possibilité de s'abonner justement à cette revue.
Commander les numéros qui manquent.
Voilà, tout simplement. En tout cas, bien, Jean-Pierre Guyard, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie d'avoir pu présenter dans le Nord-Sarthe la vie mancelle et sartoise.
Voilà, et peut-être qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble sur d'autres petites choses, mais ça, ce sera pour la suite. En tout cas, je vous remercie et passez une bonne fin de journée.
Merci, et vous de même.
Merci, au revoir.
Au revoir.